saw you with another person and I lost my freaking mind, Sophie. And I think it's really cool that you're there in that place, but I'm not. And I think it'll be really painful. And honestly, I really like someone else right now. So no, I don't think we can be friends yet. I'm really sorry.
Salut, c'est Chanel Menti, t'écoutes Balance ton mot, le podcast qui kick les stéréotypes. Un des plus gros succès Netflix des dernières années. C'est d'ailleurs, je trouve, une excellente série pour parler de santé mentale, avec des personnages qui sont attachants, intéressants, qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries en règle générale, mais dans lequel on retrouve quand même quelques archétypes. Je te parle aujourd'hui de Ginny and Georgia. Et un personnage qui, je trouve, rentre quand même dans les archétypes qu'on a habituellement dans les séries, c'est celui de Max, qui est donc la meilleure amie de Ginny, mais qui n'est pas que sa meilleure amie, factuellement, qui est sa meilleure amie lesbienne. Et c'est pile là que je trouve que le personnage de Max, c'est dommage. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les séries en règle générale, les personnages gays, que ce soit les meufs ou les gars, sont quasi exclusivement les meilleurs amis du personnage principal. Les seules fois où c'est pas le cas, c'est quand c'est des séries qui sont vraiment brandées LGBT, où le personnage principal est lui-même LGBT. Sinon, quand il n'y a pas cette étiquette-là sur la série, c'est vrai que quasiment tout le temps, le personnage qui est là pour représenter la sphère LGBT est toujours le meilleur ami ou la meilleure amie pour le coup du personnage principal. Alors si je reviens précisément à la série Ginny and Georgia, Max c'est donc la voisine, la meilleure amie de Ginny. C'est un personnage qu'on peut qualifier d'hypersensible. Elle a vraiment comme ça des grosses oscillations dans ses émotions. Elle ressent tout très très fort. C'est un personnage, Max, qui est hyper exubérante. Elle aime être au centre de l'attention. Elle veut à chaque fois le rôle principal dans la comédie musicale du lycée. Et pas que, hein, on voit que quand elle est juste comme ça dans les couloirs du lycée, elle parle fort, elle fait des grands gestes, enfin, elle aime que tout le monde la regarde tout le temps. Max, elle est excentrique, ça va avec l'exubérance, hein. Et en plus de ça, Max est donc gay. Et le côté bestie gay, c'est un trope qui est assez courant dans les séries. Dans Elle, par exemple, une des dernières sorties de Prime Video, la meilleure amie de Elle Woods à Atlanta, c'est Liz, lesbienne. Dans Jane the Virgin, la meilleure amie de Jane, c'est Petra, qui est finalement lesbienne. Dans Crazy Ex-Girlfriend, encore une fois, l'une des meilleures amies du personnage principal, c'est Valentine, qui est elle aussi un personnage féminin déçu des hommes et donc devenue lesbienne. Et le message qui est un petit peu derrière tout ça, c'est que si tu choisis pas les gars, si tu choisis pas de relationner avec des hommes, tu seras l'éternel second rôle, tu seras la meilleure amie, tu ne seras pas le main caractère de l'histoire. Et cette récurrence-là dans cette représentation, ça vient forcément avec son lot de stéréotypes. Et les personnalités LGBT deviennent des accessoires sociaux, des trophées qui permettent de donner à une série une étiquette de série ouverte, pleine de diversité, parce qu'on retrouve justement des représentations qui cassent les codes habituels du patriarcat, et donc qui est un petit peu plus créative en termes de scénario et d'écriture de personnages. Mais c'est jamais les personnages principaux, c'est toujours les secondaires. Et donc, factuellement, ça vient cocher des cases de diversité. Et donc, factuellement, pour certaines plateformes, avoir une démarche plutôt marketing, parce qu'ils viennent s'adresser à des publics qui veulent justement, comme moi par exemple, des représentations qui changent. Et écoute, on va te mettre une petite représentation qui change, mais on va la mettre en personnage secondaire. Mais elle est là, donc viens pas nous taper sur les doigts, en fait. Ça vient complètement noyer le poisson. Et du coup, ces séries-là ont cette espèce de tampon diversité LGBT queer friendly, sauf que factuellement pas tant en fait. Ça reste quand même hyper stéréotypé, hyper cadré, et c'est pas si créatif que ça, puisque c'est toujours incarné et raconté de la même façon. Un deuxième stéréotype qu'on a aussi avec les personnages féminins queer, c'est qu'en général, franchement, l'outfit est là pour rejeter les codes du féminin. Genre, vraiment, en règle générale, elles ont toutes des t-shirts plus ou moins amples, dans des tons très sombres, avec des écritures et des dessins dessus, des grosses Doc Martens, les cheveux courts, un piercing. Vraiment, l'idée, c'est de montrer que les personnages féminins queer ne sont pas des personnages féminins hétérosexuels. Leur sexualité a vraiment un impact réel sur leur façon de s'habiller. Et à mon sens, cette représentation-là pose deux problématiques. Déjà, la première, c'est de dire que ta sexualité influence ta personnalité. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pas parce que tu choisis de t'habiller d'une certaine façon que tu as telle ou telle sexualité. Je pense que c'est surtout lié à ce que tu aimes dans la vie, à ce que t'aimes pas, aux personnes avec qui tu évolues, à ce que tu consommes, ce que t'aimes regarder, à hypothétiquement ton travail, ou en tout cas ta façon de vivre, mais pas directement et 100% relié à ta sexualité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas aussi manichéen que ça, en fait. Parce que factuellement, tu as des meufs LGBT qui factuellement cochent tous les codes vestimentaires de ce qu'on peut rattacher aux girly girls, mais qui aiment pas les gars. À mon sens, c'est beaucoup plus lié à ta personnalité, à qui tu es, que avec qui tu couches. Et donc, du coup, pour en revenir à ces fameuses meufs-là qui sont habillées de façon beaucoup plus girly girl, bah, elles, pour le coup, c'est comme si elles n'existaient pas. Parce qu'elles ne sont jamais représentées dans les fictions, puisque le stéréotype qu'on a dans les fictions de la meilleure amie gay, c'est justement quel est cet outfit qui rejette complètement les codes du stéréotype féminin, des codes girly girl. À en croire les séries et les scénarios, tout le monde entre vraiment dans une petite case et n'en sort pas. Tout est très carré, il n'y a pas de zone de flou, il n'y a pas de personnalité. Tu réponds à un QCM et à la fin, tu sais comment tu dois t'habiller, avec qui tu couches, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, où t'habites dans le monde. Enfin, vraiment, tout est très structuré, quoi. Et c'est ça, à mon sens, la réelle problématique avec ce genre de représentation. C'est que d'avoir en permanence un personnage queer qui est le meilleur ami, c'est comme si ces personnes-là n'étaient pas intéressantes parce que justement elles ne répondent pas aux normes patriarcales qui est donc un garçon qui est avec une fille et qui a un enfant. Et c'est forcément une histoire tout à fait secondaire et pas très intéressante, pas très digne d'intérêt. Ou alors, du coup, on fait une série qui ne tourne qu'autour du côté queer. Mais l'univers des séries est vraiment séparé en deux. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il n'y a pas de la vie réelle, quoi, finalement. Quelque chose de subtil, quelque chose d'humain, quelque chose de sensible. C'est très rare de trouver une série dans laquelle le personnage féminin queer est un main caractère comme peuvent l'être des meufs hétéros, quoi. Alors, je te rassure, ça existe quand même, notamment The Beast in Me sur Netflix. Why are you here? Did you kill her? What do you think? C'est une série d'enquêtes, un thriller. C'est donc l'histoire d'une meuf qui est donc queer et on n'en a absolument rien à foutre, qui est surtout autrice, qui a acheté une très grande maison à rénover avec, à l'époque, sa femme et son enfant. Sauf que son enfant est décédé d'un accident. Sa femme, le couple, ça a pas tenu. Et donc, elle se retrouve un peu à galérer dans sa maison, à pas réussir à écrire parce qu'elle n'arrive pas à se remettre de la mort de son enfant et du divorce avec sa femme. Et surtout, du coup, elle est dans une maison... qui est dans un état déplorable. Mais dans un très très beau quartier, tellement beau quartier que vient déménager juste à côté de chez elle un gars plutôt louche, avec genre une maison ultra sécurisée, des gardes du corps, des caméras de partout. Enfin voilà, c'est un gars qui pèse, qui a de l'argent, qui a du pouvoir et qui l'utilise de la mauvaise façon. Hein, voilà. Et sauf qu'il va y avoir comme ça une relation qui va se créer entre ces deux personnages-là. Quelque chose d'hyper malsain, quelque chose de très toxique, empreint de mensonges, de jeux de pouvoir. Et chacun va essayer de tirer de l'autre des informations, des faits, une aide, plus ou moins consentie par l'autre personne. Mais en tout cas, ça va être comme ça un thriller qui va avancer au fur et à mesure et qui va faire du coup ressortir The Beast in Me, donc la bête en moi, chez un petit peu les deux personnages en réalité. Et ce que je trouve absolument génial dans cette série, du coup, c'est que le personnage féminin central de cette série n'est pas du tout développé en fonction de son orientation sexuelle. Elle est développée comme un humain à part entière, avec sa sensibilité, son vécu. Elle a un arc narratif qui a un début, un milieu, une fin, qui a un intérêt et qui n'est pas relié à sa sexualité, encore une fois. Franchement, cette série, elle se dévore. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette saison 3 de Balance ton mot. Bisous !